nouvelles relations diplomatiques avec Israël. Prochainement, c'est ça. Enfin, la coïncidence, c'est que nous allons étudier le conflit en question ce soir. Alors, vous allez prendre d'abord un premier thème à la fin de la paracha précédente. Prenez le à partir du verset 43 du chapitre 27, à la fin de la paracha Toldot, pour vous rappeler un des thèmes que vous avez dû certainement étudier la semaine dernière, sinon une autre fois, mais qui sont importants pour comprendre les raisons profondes de la séparation entre Jacob et Ésaü dans le récit de l'histoire que nous sommes en train d'étudier, et puis d'autre part, la raison pour laquelle Jacob va quitter le pays d'Israël, qui ne s'appelle pas encore le pays d'Israël, mais est encore vivant, habite encore Isaac et Rebecca. Et quelle est la motivation de cette fuite du pays, mais qui est racontée sous deux dimensions. D'abord, une fuite, vraiment, se mettre à l'abri de la colère et de la frustration d'Ésaü après l'échange des bénédictions. Ça, vous l'avez étudié la semaine dernière, je suppose, dans la paracha de Toldot. Et puis, d'autre part, une deuxième motivation qui est celle de Isaac. La première étant celle de Rebecca, celle de Isaac, d'aller trouver femme au pays d'où était sorti Abraham et où une partie de la famille d'Abraham était restée, c'est-à-dire le frère d'Abraham qui avait fondé la famille de Nahor, la partie de la famille d'Abraham qui est restée dans l'exil de ce temps-là et qui devient non seulement qui était, comme d'ailleurs la famille d'Abraham et de tous les Hébreux qui vivaient à Babel, d'identité araméenne, mais qui reste araméenne. Ceci pour dire que vous avez un vocabulaire différent qui est employé par la Torah lorsque c'est Rivka qui envoie Jacob en dehors du pays pour fuir la colère d'Ésaü et se mettre à l'abri de cette colère. Elle l'envoie à la ville où habitait son frère Laban et qui est la ville de Haran. C'est clair ? Alors vous allez prendre tout de suite la fin du verset 43 du chapitre 27 pour trouver ce mot-là. Je traduis le verset. Verset 43, même Gimel, du chapitre 27, Kavzaïn, Ziet. Voilà, Verata béni, et maintenant, dit Rivka à Jacob, et maintenant, mon fils, Shemar Bekoli, écoute ma voix, Vekum Berach Lecha, et va, décide-toi, Kum littéralement, ça veut dire lève-toi, mais ça veut dire lève-toi en prenant la décision, et c'est une décision difficile lorsque le texte dit Kum. Il faut l'akum. C'est pas traduisible à nuance que je vous ai exprimé, mais je pense que vous l'avez comprise. El Laban achi Harana. Chez Laban, mon frère, à Haran. Harana en direction de Haran. À Haran. Ve'ashavta imu yamim ahadim. Retenez bien les différentes expressions. Et tu résideras avec lui yamim ahadim. Quelques jours. Et vous savez qu'il est resté 20 ans. 7 ans. Pour Rachel, mais on lui a donné Léa. 7 ans encore pour Rachel. Alors ne vous trompez pas, c'est 14 ans pour Rachel, bien qu'au bout de 7 ans, il ait eu Léa comme épouse. Et ensuite, 7 ans pour le troupeau, mais à la 6e année, j'ai employé un mot anachronique, l'antisémitisme de son oncle Laban, qui était son beau-père, se déclenche et il est obligé de s'enfuir. Et cette fuite nous sera racontée par la suite. Mais la consigne de Rivka, c'est de rester yamim achadim, quelques jours, ad asher tashu hamat ahecha, jusqu'à ce que ne revienne, littéralement en hébreu, pour dire, dans beaucoup d'expressions, pour dire qu'on revient à un état antérieur, on emploie la même racine que pour faire dire qu'on fait tshuva, tashu, ne revienne. La colère de ton frère. On pourrait dire, donc, Rivka a été optimiste, que la colère d'Ésaü ne durerait que quelques jours, elle a duré jusqu'à ce soir. Et ça fait un peu plus que quelques jours. Mais en vérité, elle a duré, semble-t-il, d'après ce verset, 20 ans. Puisque ce n'est qu'au bout de 20 ans que Jacob va finalement revenir. Quelle sera la motivation du retour de Jacob? Je pense qu'on y arrivera tout à l'heure. Mais la motivation du retour de Jacob n'était pas d'obéir au souhait de sa mère, puisque sa mère lui dit « C'est moi qui t'envoie, reviens vers moi ». Mais en réalité, il est revenu parce qu'il s'est enfui de chez Laban, du frère de sa mère. Vous voyez qu'il y a une sorte de modèle de notre histoire. La raison pour laquelle la majorité, en tout cas, des Juifs qui sont revenus au pays, ce n'était pas pour revenir au pays, c'était pour s'enfuir de l'oncle, là-bas, le beau-père. Et vous savez que ça veut dire Laban en français ? Laban, ça veut dire en français. Blanc. Je me rappelle que mon maître disait qu'il n'était pas si blanc que ça, celui-là. Mais dans tous les cas, il s'agit de la civilisation blanche. On s'est sauvé de la civilisation blanche. Il y a ici vraiment une indication que nous avons vécu en clair. Et alors, il y a encore beaucoup de perplexité chez les Juifs de diaspora entre ces deux motivations qui n'arrivent pas à se décider, revenir chez leur mère ou s'enfuir de l'oncle. Et ça, c'est notre histoire. Vous pourriez écrire un roman sioniste là-dessus. Et on continue. Le verset renchérit. Ad shuv afahecha mimecha. Jusqu'à ce que la colère de ton frère ne revienne de dessus toi. Le shachar est taché à Sitalo. Et qu'il oublie ce que tu lui as fait. Vous entendez le paradoxe? C'est elle qui lui a demandé de le faire. Mais comment vous expliqueriez ça?
Et qu'il.
Non? Non. Non, il ne pouvait pas ne pas oublier. Il ne pouvait pas ne pas oublier. Un juif peut obéir à sa mère. Oui, mon. Non, elle dit en clair. Jusqu'à ce qu'il oublie ce que tu lui as fait, que tu devais faire, que tu as bien fait de faire. Mais sache que. Tu l'as fait. Ça lui a été fait. Et ne me reprenez pas parce que vous me faites changer d'idée. Il l'a subi, ce que je veux dire. Veshalarti, et j'enverrai, Velakarticha Misham, et je te ferai revenir de là-bas. Avec quel shliach, avec quel agent juif, avec quel sortnout. Oui, ça a l'air assez mystérieux, mais on va voir si on arrive au passage, sinon demandez-moi-le avant la fin, que finalement, derrière les péripéties à travers lesquelles Jacob va revenir, il y a ce plan de Rivka. Le mettre à l'abri de la colère de son frère, mais pas n'importe où. Là d'où elle est sortie, ce qui était la matrice d'identité de la famille d'Abraham, elle était restée, cette matrice, dans une préhistoire d'elle-même. Mais c'est elle, la matrice de la famille d'Abraham. Et l'identité d'Israël n'est pas encore constituée, Jacob n'est pas encore nommé Israël. Et tant que Jacob n'est pas nommé Israël, il y a une double impossibilité. C'est prendre fi dans le pays de Canaan, dont on doit remplacer la population de ce temps-là, pour des raisons qu'on a apprises d'autre part. Pourquoi Israël se prépare en exil pour avoir à remplacer la population qui occupe le pays. Ça, il faudrait le dire au gouvernement. Okay. Mais ça, c'est le plan de la Torah, et en tout cas, le plan de la Torah est irréversible, quel que soit le temps que ça prend. Mais, d'autre part, le fait de ne pas prendre de femme ailleurs que dans le vaste monde, ailleurs que dans cette matrice, tout où était à l'abri la semence d'Abraham. Est-ce que c'est clair ce que je viens de dire là? À partir du moment où Israël existe, alors il y a une adresse d'identité, alors, et ce sera le cas prestigieux de Moïse, n'importe quelle fille des autres lignées humaines peut devenir Israël et être mariée à Israël. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis là. Mais tant que l'identité Israël n'existe pas, alors c'est la consigne qu'Abraham avait donnée à Eliezer pour le mariage d'Isaac. Et c'est la consigne que Rivka va donner à Jacob lorsqu'elle prend acte qu'Ésaü s'est disqualifié pour avoir pris des filles des. Non. Justement, si j'ai hésité, parce qu'elles n'étaient pas toutes cananéennes. Ne m'interrompez jamais, surtout pas au milieu d'une phrase. Okay. Des peuplades de ce temps-là qui habitaient en Canaan, mais elles n'étaient pas cananéennes vraiment. Et ça vous est dit deux fois. Dans la paracha de Toldot de la semaine dernière. on va avoir une allusion dans le verset, mais je vous donnerai le verset après. Je reprends là où je m'étais arrêté. Veshalarti ulkarticha misham. J'enverrai et je te prendrai de là-bas. Il y a ici une indication que la shrina, la présence de Dieu, à travers qui la providence agit, je n'explique pas ces mots-là, c'est pour ceux qui sont familiers à ces catégories, à différents visages, suivant les époques, elle a le visage des mères d'Israël. Il y a une Shrina qui a l'apparence de Sarah, une Shrina qui a l'apparence de Rivka, une Shrina qui a l'apparence de Rachel, de Léa. Notez-le dans un coin de votre mémoire, si vous rencontrez au tournant d'un midrash, dans l'enjambement d'une phrase du Talmud, cette indication, vous l'étudierez dans la source. Donc, effectivement, c'est la Shrina qui agira par le mérite de Rivka. Voilà l'expression que je voudrais qu'on étudie un peu plus. Voilà ce que dit Rivka à Jacob. Lama eshkal gam shnechem yomecha. Pourquoi serais-je veuve de vous deux, gam, pas seulement un, mais même l'autre, gam, yomecha, un même jour. Ça veut dire, elle a peur de perdre les deux. Est-ce que c'est clair? Le verset est clair, Ken. Pourquoi? Vous savez qu'en hébreu, pour dire qu'une mère perd un enfant, on dit qu'elle est veuve de son fils. Shrol, Ken. Et Shkula. Lama eshkal gam shnechem. Gam shnechem. Ça veut dire que si la bénédiction matérielle, c'est Esaü qui la prend, puisqu'il ne partagera pas avec Jacob, les deux seront perdus au niveau du monde de la matière. Mais Jacob a que la bénédiction spirituelle, il ne partagera pas avec Esaü et les deux seront perdus au niveau du monde de la bénédiction spirituelle. Il faut donc donner la bénédiction matérielle et la bénédiction spirituelle à Jacob, puisque Esaü est disqualifié dans leur désengendrement pour avoir pris les filles païennes. Et donc ça veut dire que sa descendance ne serait plus Israël. Est-ce que c'est clair? Je n'ai pas besoin de réexpliquer, j'espère que c'est suffisamment clair. Ça veut dire, je voulais vous indiquer que Rivka avait autant de soucis d'Esaü que Jacob, que de Jacob. On le verra d'ailleurs tout à l'heure. Je vais vite pour ne pas risquer de faire comme les autres fois où on reste au début. Non, après. Mais, ou bien ça se résorbe, et c'est dommage pour le temps, ou bien, marquez-le, moi je vais oublier. Vatomer Rivka et Yitzhak, et Rivka dit à Yitzhak, Kasti Bechayai, littéralement ça veut dire ma faim est dans ma vie, ni pene benot chet, à cause des filles de Chet, vous voyez que le texte ne les appelle pas filles de Canaan, okay? C'était des Chittites. Et c'est important symboliquement parce que Chet, ça veut dire le péché. Chet. Bon, ça remonte au péché originel, mais je ferme la parenthèse. Im lokeach Yaakov, Ishami benot Chet. Si Jacob prend une femme de parmi les filles de Chet, Kaele comme celle-là, mi benot haaretz, des filles de la terre, parce que bien sûr Jacob fait partie des célestes, lamali chayim, que ferais-je de la vie? Pourquoi? Littéralement, pourquoi pour moi la vie? Vous voyez la motivation de Rivka qui indique pour quelle raison Esaü a été disqualifié, c'est les femmes d'Esaü. Est-ce que c'est clair jusque-là? Retenez bien cela. Je vais vous donner le verset où... il faut que je retrouve une minute. Hein. Et il faut que je vous retrouve ce verset. Voilà. Prenez le chapitre 26 à la fin. Verset 34. Chapitre 26, verset 34. Vaïa Esav, Esaü, fut la Meddalek Kavav, Esaü fut Ben Albaïm Shana, âgé de 40 ans, Vaïa Karisha, et il prit pour femme, et Yehudit, regardez le grand paradoxe, et Yehudit, Bat Be'eri Ahiti, et Yehudit, fils de Be'eri le Hittéen. Alors vous allez vous demander, qu'est-ce qu'il vient faire une juive là-dedans? Marwan, qui connaît la réponse? Non? Il y a un midrash qui explique qu'il a voulu tromper son père, il l'a déguisé en juif, et il dit voilà, elle est cachère. Je peux la prendre. Tira? J'entends pas. Elle ne s'appelait pas. Vous allez voir qu'il y a un autre texte où le nom des trois femmes est différent. Et Yehudit, Bat Be'eri, Ahiti, Bet Basmat, Bat Elon, Ahiti, et Basmat, qui est elle-même Mahalat, et on va voir ça dans un autre texte, fille de Elon le Chittéen. Alors faites attention, les Chitéens ne sont pas des Cananéens. Les Chitéens étaient la peuplade qui occupait le pays avec six autres peuplades, dont une peuplade importante était les Chivites. Je vais vous dire pourquoi je vous cite les Chivites. Le Talmud dit que lorsque Israël est rentré dans le pays de Canaan en revenant d'Égypte, il n'avait pas le droit de changer de, comment on dit ça en français, l'ordre des agricoles, des différentes agricultures. Si là il y a du blé, là il y aura du blé. Si là il y a des carottes, là il y a des carottes. Comment on dit ça en français, j'ai oublié. C'est pas le cadastre, c'est ma chose à faire, les gamins. Mais c'est pas grave, vous avez compris l'idée. Parce que les Chivéens avaient une grande sagesse antérieure, il leur suffisait de sentir le parfum de la terre pour savoir quoi ensemencer. Bien. Alors, Ésaü a hérité des Chivites, des Chittites et d'autres, alors que les Cananéens étaient d'autres peuplades venues d'Europe. Mais finalement, ce sont les Cananéens qui ont imposé leur culture dans le pays des Hébreux, et c'est pourquoi le pays des Hébreux, depuis le temps des patriarches, va être appelé le pays de Canaan, parce que cette peuplade conquérante, la principale, c'était les Cananéens. Mais faites attention, il y avait différents. De la même manière que vous avez dû remarquer, ceux qui font les Milouim, que les Arabes de Haza, les Arabes de Hébron et les Arabes de Shrem n'ont rien à voir les uns avec les autres. Je ne sais pas si vos maris vous ont raconté ça, vos cousins. Alors on arrive au dernier verset du chapitre 26. Vatiyena Morat, retenez bien ce verset. Vatiyena Morat Roar, et ces femmes qu'Ésaü avait prises furent sujet d'amertume pour l'esprit, Morat Roar, les Yitzrakul Rivka. Retenez bien, parce que nous allons voir comment ceci explique le changement de motivation dans le départ de Jacob. Le texte, il dit ici que ces femmes d'Ésaü étaient plus que désagréables à Isaac et à Rivka. Retenez bien, notez-le ça. Alors je reviens maintenant à notre chapitre 25. Voilà, donc dans le chapitre 27, la motivation du départ de Jacob, c'est la fuite devant Ésaü, et ça s'appelle aller à Haran. C'est clair? Bon. Maintenant, nous allons voir dans le chapitre 28 la deuxième motivation. Vaïkra, Yitzhak et Yaakov. Vaïkra, Yitzhak et Yaakov. Et Isaac convoqua, appela Jacob. Vaïbarechoto et le béni. Vaïsaveu. Et il lui prescrit, lui ordonna. Vaïomero, il lui dit. Lotika Hisham ibenot Kenaan. Tu ne prendras pas de femme chez les filles de Canaan. Alors oui, tout change dans l'intitulé déjà. Mais voilà ce que je voulais ajouter. Avant de lui transmettre la bénédiction d'Abraham, ce que nous allons voir au verset 4, le verset dit, il le bénit. Et ensuite, il va lui transmettre une bénédiction. Je reviens une parenthèse. À la différence de ce que dit le texte par rapport à Ésaü. Isaac prévoyait pour Ésaü la bénédiction des biens matériels. Nous savons qu'en hébreu, bénédiction, ça veut dire la fécondité. Mais il n'est pas écrit que Isaac a béni Ésaü. Vous voyez qu'il faut le voir en hébreu. Il lui a transmis la bénédiction des biens matériels, mais il n'a pas béni sa personne. Tandis qu'ici, nous allons apprendre que Jacob est béni par sa personne et il reçoit la bénédiction d'Abraham. Kum lech padena Aram va à Padan Aram, Beta Betuel Abihimecha, à la maison de Betuel, la mère de ton père. Mais on dirait que Isaac et Rivka ne se sont pas du tout concertés pour la même chose, que Jacob aille chez Laban. Dans le premier texte, il s'agit d'aller chez Laban, le frère de Rivka, à Haran. Dans le deuxième texte, il s'agit d'aller chez Betuel, le père de Rivka et de Laban, à Padan Aram. Vous avez vu que tout le vocabulaire a changé. Alors peut-être qu'on pourrait dire que vous auriez pu vous appuyer sur le verset 1 pour dire que c'était des Chittites Canaan. Mais on n'était pas sur ce texte-là, hein. C'était des Chittites. les femmes qu'Ésaü a prises. On retiendra cela. Semble-t-il, Isaac et Rivka suivent deux projets différents. Semble-t-il, ils ne se concernent pas. Ça a l'air d'être très paradoxal. Hein? En fait, je reviens un peu en arrière. Si c'est trop chargé, mettez des parenthèses et vous élaguez. Voilà comment Isaac a pensé la transmission de l'identité à la génération suivante. À la génération suivante, il fallait qu'apparaisse Israël. Abraham, Isaac, Israël. C'est pas ce qui est arrivé dans l'histoire. Mais dans le projet, c'était Abraham, Isaac, Israël. Et puis, voilà que ce qui apparaît, c'est deux jumeaux, Jacob et Ésaü. Et tout le problème est de savoir lequel des deux est Israël. C'est clair jusque-là ? Et encore une fois, moi je suis frappé par la coïncidence, parce que l'Église a mis 2000 ans pour se prétendre Israël, et s'il arrive qu'elle reconnaît que c'est l'État juif qui est Israël, c'est qu'elle a reconnu qu'Ésaü, on les a eus. Mais en tout cas, pour revenir au sujet, il faut donc comprendre pourquoi, dès le début, la Torah nous parlant de la vocation de ces deux enfants, qui étaient jumeaux, et donc quand ils étaient très enfants, on ne les reconnaissait pas, mais quand ils ont grandi, on ne les distinguait pas dans leur vocation. Quand ils ont grandi, on s'aperçoit que Ésaü a la vocation matérielle, alors que Jacob a la vocation spirituelle. Alors pour Isaac, tout est très bien. Les deux problèmes de l'homme ont trouvé leur héros. Ésaü réussira le monde de la matière, il sera béni du monde de la matière, il partagera avec Jacob. Jacob réussira les tâches du monde de l'esprit, il sera béni des tâches du monde de l'esprit, il partagera avec Ésaü. C'est la mère qui sait que les enfants ne s'aiment pas. Et c'est la raison pour laquelle elle prend une toute autre stratégie, celle qui nous est racontée dans notre paracha, à la fin de Toldot, que j'ai rappelé tout à l'heure rapidement. Il faut que aussi la bénédiction d'Ésaü aille à Jacob. Et c'est quand Jacob a les deux bénédictions qui s'appellent Israël. Je voudrais vous... vous aurez ici une petite parenthèse, mais vous l'agrez parce que je vais reprendre le fil de l'étude. Jacob, c'est l'esprit et que l'esprit. Mais c'est le juif de diaspora. En tant que juif, il est censé ne s'occuper que de Torah. Il s'occupe d'autres choses, mais ces autres choses sont goy. Prenez l'exemple de l'art juif. L'art juif est un art très particulier. C'est l'art goy à la juive. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. On va rentrer dans Hanouka. Et c'est pourquoi chaque communauté juive a des chanoukiyot d'art différent, parce que c'est l'art du pays à la juive, et ainsi de suite pour énormément de choses. Tout ce qui n'est pas la Torah dans le sens purement spirituel, tout ce qui est déjà même la Torah insérée dans le monde de l'existence, a le signon, le style des goyim chez qui on a vécu. Alors ça, c'est Jacob. Il n'est juif qu'en tant que Torah, mais comme il est homme, sa manière d'être homme, elle est la manière des goyim chez qui il vit. J'ai pas dit elle est goy, j'ai dit elle est la manière des goyim chez qui il vit. Et à force d'être la manière des goyim chez qui il vit, elle peut devenir goy. Ça, c'est le danger de l'assimilation en dehors de Sion. Et c'est toute notre histoire. Mais les juifs se reconnaissent, quel que soit leur folklore, les juifs se reconnaissent, quel que soit leur profil, le profil de la cité où ils vivent, quand ils sont vraiment juifs. J'étais frappé, moi, de cela dans ma jeunesse. J'ai fait partie de la génération des Sfaradim qui ont rencontré les Ashkenazim après 2000 ans. J'étais frappé de cela à quel point 2000 ans, c'est énorme. 2000 ans de séparation. C'est la même chose, avec de toutes petites nuances, mais qui n'ont aucune importance au niveau Torah. Mais au niveau insertion dans la cité humaine, ça n'a rien à voir. Je sais pas si c'est clair ce que je dis là. Quand un juif marocain, un juif polonais se heurtent, c'est pas les juifs qui se heurtent. Ils sont juifs autant l'un que l'autre, et c'est Dieu préserve. Bon, c'est une autre histoire. Mais ce qui se heurte, c'est le polonais et le marocain. Pas le juif. Vous savez bien que les juifs s'aiment à tu et à toi. Je te tue, moi et toi. En tout cas, pour revenir c'est chez nous qui a écrit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Bon, en tout cas, pour revenir au sujet, de quoi je parlais ? C'est juste après, juste avant.
Jacob, c'est juif de la...
Ah oui, Jacob, c'est l'homme voué uniquement à l'esprit. En tant que Jacob, il est uniquement l'homme de l'esprit. C'est pourquoi, dans le début de notre parasha de Vayetzi, il va refuser la bénédiction qu'il a reçue sur l'ordre de sa mère. Il va la refuser. Quand dans la vision des anges, il dira à Dieu, « Je veux du pain pour manger, un vêtement pour me bénir. » Et c'est un vœu qu'il fait. Un vœu, c'est toujours privatif. Est-ce que c'est clair ce que je dis là ? Il donne et d'air. Et il fit un vœu en disant, « Si tu me donnes du pain pour manger et un vêtement pour me vêtir, tu seras mon Dieu. » Ce n'est pas du tout un contrat. Je ne serai ton fidèle que si j'ai du pain pour manger et un vêtement pour me bénir. C'est un vœu. Et on a d'autres indications dans le récit qu'il a refusé la bénédiction d'Ésaü. En principe, Jacob a peur de la tâche d'Ésaü en tant que juif. Pourquoi je voulais ajouter cette parenthèse ? Le juif de l'exil réussit aussi bien que les goïms dans les tâches matérielles. Et ils sont prix Nobel de manière spectaculaire. Mais ce n'est pas en tant que juif. Et c'est quand même par le fait qu'ils sont juifs que ça nuance leur manière d'être goï de manière caractéristique, au point que le goï reconnaît même un juif assimilé. C'est clair. En tout cas, Jacob, c'est l'esprit et que l'esprit. Je vous cite de nouveau le Midrash chassidique qui explique le vœu de Jacob. Il dit « Je ne veux pas du pain et avoir à le vendre pour acheter un vêtement, et je ne veux pas un vêtement et avoir à le vendre pour acheter du pain. » Ça veut dire « Je ne veux même pas le commerce. » Vous voyez à quel point ce juif-là, c'est un bon juif. Et Ésaü, c'est que la matière. Et comme je dis souvent, ce sont deux tâches qui, s'il faut s'y adonner, demandent l'investissement total de 24 heures sur 24. Pour être un vrai talmudiste, il faut 24 heures sur 24. Pour être un vrai mathématicien, il faut 24 heures sur 24. Et alors, ça ne veut pas dire que l'idéal, ce n'est pas les deux. Oui. Mais il faut savoir où se situer. Et c'est pas n'importe qui peut être Israël, c'est surhumain. Être à la fois Jacob et Ésaü. Et cette identité n'apparaîtra que plus tard. C'est-à-dire quand Jacob est capable aussi des tâches matérielles, alors il s'appelle Israël. Voilà, c'est clair jusque-là. Refermez cette parenthèse et je continue. Vous voyez, nous sommes occupés à comprendre le changement d'intitulé, le changement de motivation. Quoi qu'il en soit, notez, Haran, c'est le nom de la ville. Paddan Aram, c'est le nom de la province. Et c'est donc le même endroit. Bethuel, c'est le père de Rivka et de Laban, et Laban, c'est le frère de Rivka, c'est donc la même maison. Mais la Torah a tenu à nous séparer les motivations. La première motivation, c'est s'enfuir de la colère d'Ésaü, qui a été disqualifié à cause des femmes étrangères. Alors que la motivation d'Isaac ne fait pas allusion à la colère d'Ésaü. Il faut continuer les engendrements, il faut assurer la descendance. On a pris à qu'Ésaü est disqualifié. Toi, il faut que tu aies la bénédiction d'Abraham, parce que tu es le seul à pouvoir continuer la descendance d'Abraham. Voilà, c'est clair jusque-là ? Allons, on continue. Et Vekah lecha misham, Isha, et prend de là-bas une femme, mi benot Laban, des filles de Laban, achi imecha, frère de ta mère. Vous voyez qu'il faut, il faut toujours être prudent dans tout ce qu'on dit. Prends une femme des filles de Laban. Et on lui a imposé toutes les filles de Laban. Vous avez compris ? Et effectivement, imaginez Jacob. Et toute sa tâche, on va le voir, c'est d'étudier la Torah. Il est l'homme de l'attente d'étude. Et qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse ? Il faut qu'il gère quatre maisons. Quatre fois Baal HaBayit. Okay ? Imaginez la difficulté d'être de Jacob. Heureusement qu'il avait un beau-père quadruple. Ve'el Shaddai et Barechotra, et le Dieu Tout-Puissant, chaque fois qu'il s'agit d'une promesse de Dieu, il y a El Shaddai. On traduit Tout-Puissant en français, je ne voudrais pas prendre trop de temps. Littéralement, en hébreu, le Midrash l'explique, qui possède suffisamment pour pouvoir promettre. C'est ça que ça veut dire Tout-Puissant. Yebarechotra, te bénira. Vous voyez, indépendamment du fait que Jacob est béni dans sa personne, il est rendu capable de fécondité, alors il y a une fécondité particulière qui lui est confiée, transmise, promise. Ve'afrecha ve'irbecha, il te fructifiera et il te multipliera. Ve'aital kalamim, et tu deviendras une assemblée de peuples. Une assemblée de peuples, c'est déjà l'annonce des 12 tribus. Kalamim. Et parce que là aussi, il y a un thème très important. Chaque tribu d'Israël est en elle-même un peuple. Et effectivement, nous l'avons vécu à travers les 2000 ans de diaspora, chaque tribu d'Israël, qui avait des sous-tribus d'ailleurs, et c'est vrai pour chacune des familles, pouvait refaire être tout Israël et refaire tout Israël. Même si les autres, par hypothèse hypothétique, n'existaient pas. Je vais vous illustrer ça. Chaque tribu s'appelle un peuple. Et j'ai connu les Judéens d'Afrique du Nord, et nous étions en tout, en Afrique du Nord, Maroc, Algérie, Tunisie, plus le Sahara, avant la guerre mondiale, si nous étions 350 000 en tout, c'était le bout du monde. Si j'ose dire. D'ailleurs, c'était le bout du monde à l'époque. Et alors, notre conscience de juifs, c'était nous, Israël, et puis il y avait des mythes. On entendait parler de millions de juifs ailleurs. Nous, c'était ailleurs. C'était le mythe. Je ne sais pas si vous connaissez le choc qu'on a eu lorsqu'on les a rencontrés réellement et dans leur catastrophe. Et imaginez le changement de dimension de prise de conscience de soi. On prend conscience de soi comme la minorité humaine la plus infime, Israël, et puis subitement on s'aperçoit que c'est un grand peuple. Il ne faut pas exagérer, ce grand peuple c'est l'un des plus petits peuples de la Terre. Mais par rapport à ce qu'étaient les communautés, qui se pensaient nous Israël et les autres. Et les autres, je vous assure, c'était mythique. La première fois que j'ai rencontré un juif européen qui a demandé où on peut manger cachère, il était roux en plus, j'ai dit ça, c'est le Messie qui est arrivé. Un homme roux venu du Nord et qui mange cachère. Je ne sais pas si vous rendez compte. Le choc, ça peut être pour moi, enfant. Et alors, en plus, je dois vous dire qu'après... Et en fait, j'ai connu les Marocains et les Tunisiens après l'Exode, à Paris. Parce que c'était très loin, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie. C'était aussi loin que le Portugal et la Hollande. Et alors, ce n'est pas que c'était mythique. On savait qu'ils existaient réellement. Mais alors là, je me suis rendu compte, bon, je parle surtout du Maroc, que j'ai mieux connu que la Tunisie, parce que j'ai vu qu'en Tunisie, j'étais interdit de séjour par les Tunisiens. J'étais sur la liste noire des agitateurs sionistes. Mais au Maroc, j'ai découvert un peuple juif. Et ça m'a donné l'illustration de cet enseignement. Ce n'était pas seulement des communautés, les juifs marocains. C'était un peuple. Alors que les juifs algériens, c'était des communautés. Je ne sais pas si vous voyez la dire. Par exemple, si vous parlez du judaïsme des juifs de Lorraine, c'était des communautés. Il n'y a pas un peuple juif lorrain, il y a des communautés de juifs, ou même alsaciens. La Pologne, c'était un peuple juif. Et vous voyez la différence de... Bon, en tout cas, c'est des exemples de ce qu'on enseigne à propos du Likhal Amim, une assemblée de peuples. Bon, et voilà le verset important. Veiten lecha, et il te donnera et birkat Abraham, la bénédiction d'Abraham. Vous voyez donc, les bénédictions données à Jacob n'ont rien à voir avec cette fameuse bénédiction d'Ésaü qu'il a pris quand même et qui refuse. Est-ce que j'ai remis les pendules à l'heure, Ken ? Non. Uzaracha itar, pour toi et pour ta postérité après toi, les riches techa, afin que tu hérites, et teres megurecha, du pays de tes pérégrinations, asher natan Elohim l'Abraham, que Dieu a donné à Abraham, et ce pays, c'est le pays d'Israël. Voilà, Vaishlach Israël était à Jacob et Isaac envoya Jacob, Vaïlech Padenara, mais il alla à Padanaram. Retenez bien. Rivka voulait l'envoyer à Haran. Finalement, Isaac l'envoie à Padanaram. Et au début de notre paracha où il va, Vaïtse Yaakov et Bershava, et Jacob sorti de Bershava, Vaïlech Harana, il alla à Haran. Alors ce que nous allons étudier maintenant, c'est qu'est-ce qui a causé ce changement de motivation du voyage ? Est-ce que c'est clair jusque-là les données du problème, okay? Rivka veut l'envoyer à Haran. Quelle est la motivation? S'enfuir de la colère d'Ésaü. Isaac veut l'envoyer à Padanaram. Quelle est la motivation? Prendre des filles de la famille d'Abraham. Okay? Et les deux sont d'accord sur ça, qu'il faut prendre des filles de la famille d'Abraham. Et Isaac et Rivka sont d'accord. Et voilà qu'on apprend dans le déroulement du récit que Isaac l'a envoyé à Padanaram. On a oublié Haran, on a oublié la motivation Haran, et voilà qu'au début de notre parasha de Vayetse, il s'en va à Haran. Prenez Rashi sur le premier verset de notre parasha, et on revient après au texte. Vayetse Yaakov et Bershava. Et Jacob sortit de Bershava, là où il se trouvait, dans la scène où il y a Isaac et la scène des bénédictions. Vayetse Harana, et il partit, Harana, en direction de Haran. Rashi. Vous êtes avec moi ? Tu rachis. Regardez le texte. Al-Yedé, chez Bishvil. Alors, c'est un rachis difficile à traduire en français parce que c'est de l'hébreu rabbinique. Mais ça fait rien. Écoutez l'hébreu et suivez le français. על ידי שבשביל שראו את בנות כנען בעיני יצחק אבי, par le fait que Esaü s'est rendu compte que les filles de Canaan étaient mauvaises aux yeux de Yitzhak, son père. Nous, on avait appris qu'elles étaient mauvaises aux yeux de Isaac et de Rebecca. Maron. Mais entre-temps, c'est un verset qu'on n'a pas encore lu, mais sur lequel je reviendrai. Esaü, lui, prend acte que les filles de Canaan sont mauvaises aux yeux de Isaac. Il a oublié sa mère. Retenez bien tous ces détails. Alors Rashi s'accroche sur la motivation immédiate. Par le fait que Esaü s'est rendu compte que les filles de Canaan étaient mauvaises aux yeux d'Isaac, son père. Halach Esav et Ishmael. Esaü est allé chez Ishmael, regardant tous les personnages. C'est un accord entre la Ligue arabe et les États-Unis d'Amérique. Halach Esav et Ishmael. Esaü est parti chez Ishmael pour prendre une femme ismaélite, pour l'ajouter à ses filles païennes, mais il n'a pas, à ses femmes païennes, il n'a pas répudié les femmes païennes. Vous voyez de quoi il s'agit? C'est l'alchimie des engendrements chez Esaü. Ifsika Aynian de Parachato chez Yarako. Le sujet a été interrompu sur l'histoire de Jacob. Uktiv, et il est écrit Vayar Esav Kiberach. Esaü a vu, s'est rendu compte que son père avait béni Jacob à cause du fait que les femmes de Canaan étaient mauvaises aux yeux de Isaac. Ou Miché Gamar. Et lorsqu'il a fini cette parenthèse, Hazar l'Einyan Arishon, le texte est revenu sur le premier sujet, c'est-à-dire notre verset 10 va être Yaakov et Berchera et Echalon. J'ai expliqué plus en reprenant le texte. Alors reprenez maintenant à partir du verset 5. À partir du verset 5 du chapitre 28. Et là, nous allons aborder cette parenthèse à laquelle fait allusion Rashi et qui nous explique pourquoi il y a apparemment un changement de motivation. Vous y êtes? Alors, on y va. Vaishlach Yitzhak et Yaakov, et Isaac envoya Jacob, Vaïler Padena Aram, et il alla à Padena Aram, et Laban ben Betuel Arami, chez Laban, fils de Betuel Araméen, Achi Rivka, frère de Rivka, et Yaakov et Esav, mère de Jacob et d'Esaü. Là, ici, le texte donne une information qu'on connaît déjà. D'ailleurs, toutes les informations, on les connaît déjà. Mais surtout celle-là, que Rivka est la mère de Jacob et d'Esaü. Or, on a étudié déjà une fois cela, que Rashi nous dit, je ne comprends pas ce que le texte a voulu nous dire. Et si Rashi nous dit, je ne comprends pas ce que le texte a voulu nous dire, c'est qu'il y a un secret à comprendre. Vous savez, quand Rashi dit, je ne comprends pas, ça veut dire, ne quitte pas le texte tant que tu n'as pas compris. Mais moi, je ne peux pas te dire. Pourquoi il ne peut pas lui dire? Qui connaît la réponse? Parle plus fort. Non, attendez, un seul à la fois. Mais tout ce que Rashi nous dit n'est pas dans le texte. Non, réfléchis bien. Si, non, il n'est pas fini. Si Rashi, à chaque mot, avait dit ça, là je ne sais pas. Mais il y a énormément de mots, des versets que Rashi n'a pas expliqué. Pourquoi elle va y dire là je... Tu suis bien? En fait, ça veut dire que, je vous donne un exemple. Il faut être familier à l'étude du commentaire traditionnel. Mais je vous donne un exemple. On trouve la règle formulée chez Nachmanide, qui est un commentateur, le Ramban, postérieur à Rashi. Nachmanide, en discutant une explication de Rashi sur la notion de création dès le début, alors dit, la création, c'est un grand secret qui est très caché, et celui qui le connaît doit le taire. Alors, le grand mystère de cette explication, c'est si ceux qui connaissent ce secret doivent le taire, comment ceux qui ne le connaissent pas l'ont appris pour être ceux qui connaissent? Vous avez compris ce que je veux dire? Donc, on le sait s'il faut le taire. Qu'est-ce que ça veut dire parler en se taisant? Je vais vous donner une image que je donne souvent. Je vais vous démontrer qu'ici, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Comment je vous le démontre? En mettant quelque chose et en enlevant. Vous voyez bien qu'il n'y a rien. Mais c'est ça qu'il faut comprendre. Ce qui a été enlevé pour qu'il y ait... Alors ça veut dire, fais attention. Là, tu dois comprendre quelque chose, mais moi, je ne peux pas te le dire. Non, mais c'est très bien que vous ayez donné votre hypothèse. Rashi, où vivait Rashi? Non, le même. Ne mélangez pas. Où vivait Rashi? En France. Et la France, c'est un pays quoi? Non. Voilà, c'est pas un pays juif, c'est un pays chrétien. Okay? Et Rachid était au milieu des chrétiens. Or, il ne peut pas dire ce qu'il a à dire. C'est que ce que nous avons appris d'autre part, et je le répète pour ceux qui n'étaient pas là les autres cours, c'est que Jacob finalement va fonder Israël, Ésaü va fonder la chrétienté. J'explique très, très rapidement. Nous avons deux... que Ishmaël ait fondé l'islam, ça c'est clair. Hein? Et encore, c'est pas si clair que ça, mais on est habitué. Mais l'idée que Ésaü a fondé la chrétienté, c'est une tradition rabbinique très connue de ce qu'il étudie, mais qui était, en tout cas jusqu'à ces dernières années, peu connue. Eh bien, quoique dans les yeshivot, quand on étudie ces choses-là, on sait très bien, Ésaü, Esav, c'est Édom, et Édom, c'est Rome. Bon, je vous donnerai deux argumentations. D'abord, une argumentation propre à l'exégèse même. Qui, n'étant pas Jacob, dispute à Jacob son nom d'Israël, c'est Ésaü. Et qui, n'étant pas Israël, dispute à Israël son nom d'Israël, c'est Rome. C'est Rome qui, pendant qu'elle existe, depuis qu'elle existe comme chrétienne, s'est prise pour Israël. Et d'ailleurs, à un point même qui s'appelle le vrai Israël, Verus Israël. Ils ont le virus Israël. Eh bien, mais il y a un argument historique. Comment est née la conscience chrétienne? La conscience chrétienne est née dans une alliance entre les Romains et les Iduméens au temps de l'occupation de la Judée. Qui était le roi de la Judée au temps de l'apparition du christianisme?
Hérode.
Et Hérode était quoi?
Iduméen.
Iduméen, oui. Les Romains avaient installé une dynastie iduméenne, c'est-à-dire de descendants d'Ésaü, sur le trône de Judée. Et il y a eu une alliance entre Rome et Édom qui fait que... l'identité chrétienne est apparue de l'alliance entre Édom et Rome. C'est une chose que les chrétiens ont oubliée, les juifs aussi. Alors, il faut réapprendre. Et alors, voilà ce que veut dire Rachid. Et ça, nous l'avons appris